Chapitre 7. Maurice et Émilie étaient d'origine bordelaise. Leur père, qui avait occupé un poste important aux environs de Noyon, s'était fixé dans cette ville. Il s'y était marié également. Sa femme était morte alors que Maurice et Émilie avaient respectivement 7 et 4 ans. Ils avaient grandi livrés à une vieille bonne. 5 ans plus tard, on avait trouvé leur père mort dans le bureau de l'usine, un revolver à côté de lui. Une enquête judiciaire avait été ordonnée par le parquet. Quoique mauvaise, la situation de l'ingénieur ne justifiait pas un tel acte. La veille de son suicide, beaucoup de gens l'avaient rencontré. On ne l'avait jamais tant vu. Tout le monde s'accordait pour dire qu'il avait été très gai. 2 jours auparavant, il avait même rendu visite à un propriétaire de la ville dont il convoitait une maison. Les spécialistes de ces questions savent que, chez un homme décidé à se donner la mort, une telle attitude est fréquente. Mais la population, elle, ne pouvait croire à un suicide. Finalement, l'affaire fut close, puis oubliée, mais un mystère n'en demeura pas moins attaché au nom de Lesca. Les 2 enfants furent recueillis par une sœur de Madame Lesca, une femme de 34 ans, mariée mais séparée, à qui il était arrivé dans sa jeunesse une aventure qui l'avait marquée pour toute sa vie. Elle avait été violentée, à 18 ans, par un ouvrier agricole de ses parents. Personne ne l'avait su. Elle avait vieilli avec le sentiment d'une souillure affreuse. Quand elle eut 30 ans, elle s'éprit d'un homme et l'épousa. Elle lui avait laissé entendre qu'il lui était arrivé une aventure malheureuse, mais sans plus de précision. Quelques mois après le mariage, elle lui avoua la vérité. Il ne parut pas frappé par cet aveu. Pourtant, 3 ans plus tard, il voulut divorcer et la quitta. Un peu avant, elle avait eu un enfant qui était venu au monde mort-né. Cet événement la bouleversa. Elle vit une corrélation entre celui-ci et le malheur qui lui était arrivé. Elle était dans une telle disposition d'esprit que lorsque survint la mort de sa sœur, suivie de celle plus tragique de son beau-frère, elle ne douta plus qu'une fatalité pesait sur elle. Seule, la peur d'un blâme général la contraignit à se charger des orphelins. Elle se trouvait secrètement indigne d'eux. Elle ne se sentait pas la force de les élever. Elle se trouvait à un moment de la vie où, au lieu de chercher à s'accroître, on a besoin de se replier. Elle se fit violence et se consacra entièrement aux 2 enfants. Mais malgré toute sa bonne volonté, une atmosphère pénible les enveloppa. Ils sentaient bien qu'ils étaient une contrainte pour leur tante. Elle ne leur parlait jamais durement, mais quelque chose d'artificiel se dégageait de son affection. Elle avait peur de leur nuire. Elle n'osait s'opposer à aucun de leurs désirs, tout en tremblant qu'ils ne fissent mauvais usage de leur liberté. Quand il eut 18 ans, Maurice partit pour Paris afin d'y continuer ses études. La séparation, avec sa sœur âgée de 15 ans alors, fut pénible. Au cours de ces dernières années, une grande amitié s'était formée entre les 2 jeunes gens. Ils convinrent qu'ils se retrouveraient à Paris dès qu'Émilie serait assez grande pour quitter Noyon. Maurice venait de terminer ses études de médecine lorsque sa sœur le rejoignit. Il était devenu un homme. Il s'était fait de nombreux amis parmi des étudiants riches et quand il vit sa sœur, modestement vêtue, portant un grand chapeau en arrière et pas jolie du tout, enfin, ne lui faisant honneur en rien, il craignit qu'elle ne contrariât l'idée qu'il voulait donner de lui-même. Il la tint à l'écart autant que c'était possible. Puis, quand il s'aperçut, non sans étonnement, que personne ne remarquait rien d'anormal chez cette jeune fille, la jalousie s'éveilla en lui. Il l'éloigna de plus en plus. Il empêcha de voir des gens qui étaient des amis tout indiqués pour elle. Ce fut un jour pénible que celui où le professeur Peix, croyant lui faire plaisir, lui offrit de s'occuper d'elle. Finalement, il réussit à l'installer à Versailles dans une famille qu'il avait connue en arrivant à Paris et de laquelle il n'attendait rien. Il allait la voir de temps en temps. Il était d'une extrême gentillesse maintenant qu'il n'avait plus rien à craindre d'elle. Avec le temps, elle avait fini par comprendre ce qui s'était passé dans le cœur de son frère. En arrivant à Paris, elle avait rêvé d'une union profonde. Elle s'était vue devenant la collaboratrice de son frère, devenu lui-même un grand savant, sa conseillère, son amie. Elle espéra pendant 2 ans. Au moment les plus sombres, il avait toujours une bonne parole qui lui redonnait courage. Enfin, quand elle ne douta plus qu'elle se leurrait, elle prit la décision de faire sa vie de son côté. Elle suivit des cours de puériculture et, insensiblement, elle se détacha de son frère. Ce fut à ce moment qu'il épousa la fille du professeur Peix. Persuadé qu'il s'acheminait vers une situation extraordinaire, il ne songea plus du tout à sa sœur. Quelques années plus tard, il chercha cependant à la revoir. Un grand changement s'était opéré en lui. Il n'avait pas tardé à comprendre qu'il avait fait fausse route. Dans sa naïveté de jeune provincial, il s'était laissé éblouir par la famille Peix, par les tête-à-tête avec le professeur. Celui-ci avait un talent particulier pour les provoquer, de manière qu'ils parussent une faveur insigne. Il parlait de la gloire future de son gendre, comme si elle ne faisait aucun doute. Maurice l'écoutait avec ferveur et admiration. Il était prêt à faire tout ce qu'on lui disait. Il se sentait encore incapable de plaire autrement que par une bonne volonté totale et un acquiescement continuel. Mais bien vite, il découvrit sous ses phrases l'homme qui parle à plus jeune que soi et qui trouve là plus facilement la considération qu'il cherche partout. Il s'aperçut que le professeur était aussi bête que sa fille. Il s'était vu lancé dans la société parisienne. Il s'était vu grand médecin à la mode, encore jeune, bien de sa personne, ayant des relations, etc. Mais derrière la grande réputation du professeur, il n'y avait rien, ni intelligence, ni fortune, ni bonté, ni noblesse. On s'épuisait à faire son propre chemin, à maintenir des apparences. On attendait plutôt une aide du gendre qu'on ne songeait à l'aider. Sa jeune femme luttait pour tout le monde avec plus d'ardeur même quand il s'agissait de sa famille. Le professeur était un homme sans valeur profonde, faible, paralysé par une femme qui se croyait continuellement dans l'obligation de tenir un rang. Maurice comprit qu'il ne ferait jamais rien dans ce milieu, qu'il ne serait jamais que le petit protégé d'une famille ambitieuse. Il n'eut plus qu'un désir, retrouver sa liberté. Quand il y fut parvenu, non sans des difficultés qu'il n'aurait jamais imaginées, il constata que, de même qu'il s'était trompé en croyant faire un beau mariage, il s'était trompé également en se consacrant à la médecine. Il comprit qu'il n'avait aucune vocation véritable. Il n'avait vu jusqu'à présent dans sa profession qu'un moyen d'atteindre la fortune. Il avait 33 ans. Que pouvait-il faire d'autre sans argent ? Devenir riche et puissant par la médecine était impossible du moment où il ne se sentait aucune vocation. Il lui aurait fallu, comme le professeur Peix, prendre continuellement de grands airs, s'insinuer partout, être d'une habileté qu'il n'avait pas. Alors commença pour Maurice cette vie médiocre d'homme qui a renoncé et qui, faute de pouvoir faire autre chose, continue dans la voie à laquelle, au fond de son cœur, il a renoncé. Il se disait toujours que c'était provisoire, que dès qu'une occasion se présenterait, il abandonnerait tout, mais cela dura jusqu'à la guerre de 14. Il fonda une clinique associée à un vieux médecin qu'une condamnation empêchait d'exercer en son nom. Il pensa alors à sa sœur. Il pouvait lui être utile, mais il l'avait perdue de nouveau de vue. Il la retrouva grâce à la tante de Noyon. Elle était mariée avec un petit employé et elle habitait un logement de 2 pièces derrière la rue d'Alésia. Il fut frappé de la voir si médiocre et si fière de l'enfant qu'elle promenait l'après-midi au parc Montsouris. Le petit air provincial qui l'avait fait rougir, il en avait moins honte que celui qu'elle avait aujourd'hui, un air de ménagère sans jeunesse, sans coquetterie, dans l'odeur d'un intérieur modeste. À cette époque, il alla la voir plusieurs fois. Il devina tout de suite qu'elle n'accepterait pas de s'occuper en dehors de son foyer. Il lui parla cependant de la clinique. Elle ne répondit jamais nettement. Il sentit que le mari la conseillait. C'était un homme sans grands moyens qui ne distinguait dans le monde que les honnêtes et les malhonnêtes gens. Maurice sentit qu'il faisait partie à ses yeux de cette dernière catégorie et bientôt il ne revint plus. La clinique n'avait pas tardé à faire faillite. Ça avait été une de ces affaires comme il s'en monte beaucoup, copiées sur d'autres qui sont prospères, mais qui, elles, ne marchent pas. Maurice se rendit compte qu'il ne suffit pas de prendre des décisions sages, il faut aussi être aidé par les circonstances. Il avait cru faire acte d'intelligence, de courage, en rompant avec un milieu bourgeois, et 10 ans plus tard, des regrets lui venaient, de plus en plus nombreux. C'est que les années s'étaient écoulées de telle façon qu'à la fin de chacune d'elles, il n'avait pas été plus avancé. Jamais, malgré ses efforts, il n'avait trouvé le moyen de vivre selon ses désirs. Toujours, il avait attendu l'occasion, en vivotant d'expédients, sans songer au temps qui passait. Il avait 42 ans quand la guerre de 14 éclata. Il fut mobilisé comme lieutenant-major. À part quelques incursions dans la zone des armées, il passa toute la guerre dans le sud-ouest. Il se trouva que pendant 3 mois, il fut placé sous les ordres du professeur Pex. On ne parla pas de la fille de celui-ci. Quoique plus vieux d'une 15aine d'années, ils étaient en réalité l'un et l'autre au même point. Il se produisit alors un événement assez extraordinaire. Lesca se prit de sympathie et de respect pour ce même professeur qu'il avait considéré comme un imbécile. Le professeur Pex n'est tout de même pas le premier venu, pensa-t-il. Au cours de ces dernières années, à force de vivre parmi de petites gens, la figure du professeur avait grandi en lui à son insu. Il fallait reconnaître que c'était quelqu'un. Médecin-chef des hôpitaux, officier de la Légion d'honneur, professeur à la faculté, un tel personnage eût fait sensation dans les milieux qu'avait fréquenté Lesca. Placé à la tête de la clinique, par exemple, la faillite eût été certainement évitée. Le professeur sentit tout cela. Il en fut très flatté. Il eut des égards particuliers pour le lieutenant-major. Jamais il ne fit allusion au passé, ni ne fit sentir à son ancien gendre ce qu'il avait perdu par sa faute. Lorsque la paix revint, Lesca rentra à Paris. Il pouvait encore ouvrir un cabinet, d'autant plus qu'il n'était plus à un âge où une absence de fond vous paralyse. Il pouvait cacher les errements de l'avant-dernière guerre, derrière la guerre elle-même. Mais la médiocrité de la chose le dégoûta. C'eût été vraiment trop bête. Pendant quelques mois, il attendit, il n'aurait su dire quoi. Il traversait une période amère. Il voyait le peu d'argent qu'il possédait diminuer. Il avait l'impression qu'il n'en gagnerait plus jamais, qu'il était tenu à l'écart de l'essor général. L'échec de sa vie lui paraissait de plus en plus évident. Il était accablé de regrets. À 1000 détails, il s'apercevait qu'il avait de moins en moins de rapport entre l'homme qu'il était et celui qu'il avait voulu être. Il recherchait ce qu'il méprisait ou négligeait jadis. Certains petits événements quotidiens prenaient à ses yeux une importance énorme. Il n'avait plus confiance en personne. La plus petite contradiction le mettait en colère. Il ne pouvait plus faire une connaissance nouvelle sans songer à l'avance à tous les ennuis que celle-ci allait lui causer. Un beau jour, il éprouva le besoin de se secouer, de sortir de cet état lamentable. Il lui fallait un changement, un endroit où il pût se reposer, ne plus s'occuper de rien. L'idée lui vint d'aller habiter quelque temps chez sa sœur. Il se présenta un matin chez elle, comme à son habitude, sans prévenir, comme s'il l'avait quittée la veille. L'enfant était devenu un grand jeune homme. Quand le ménage s'aperçut de l'état où se trouvait Maurice, sa méfiance de jadis s'évanouit. Il ne sut que faire pour être agréable à Lesca. Il n'y a pas plus charitable pour les découragés et les vaincus que les gens modestes. Émilie et son mari crurent que Lesca avait enfin compris ce que eux avaient compris depuis longtemps. Ils interprétèrent son désir d'habiter chez eux comme une approbation tacite de leur existence à eux et une critique de la sienne. Maintenant qu'il était un homme comme tout le monde, qu'il n'avait plus de ces ambitions si humiliantes pour ceux qui n'en ont aucune, qu'il était apparemment satisfait de son sort, on pouvait lui montrer ce qu'on était véritablement. Mais au bout d'un mois, Lesca ne put supporter cette atmosphère de jalousie et d'envie qu'il devait confondre pour plaire à ses hôtes avec celle de la grande vertu. Il s'était enhardi en plus. Leurs sourcils se fronçaient quand ils sortaient. S'ils rentraient en retard, un froid planait sur le repas. Ils avaient l'impression qu'il avait des occupations, qu'il n'avait pas renoncé, qu'il préparait quelque chose. Un jour, il annonça, sans se rendre compte de l'effet que cela produisait, qu'il avait rencontré un très vieil ami Il s'agissait de l'ancien associé. « Je constate que vous n'avez pas changé, » observa le mari d'Émilie avec aigreur. Un autre jour, il parla de s'absenter quelques jours pour aller à Noyon. « Si vous vous déplaisez chez nous, il ne faut pas vous croire obligé de rester, » lui fit-on remarquer. Lesca s'absenta quelques jours après pour se rendre à Noyon, mais il ne retourna pas rue d'Alésia. Il se portait mieux. Le séjour chez sa sœur lui paraissait moins sombre. La maison de sa tante avait été démolie. Il allait pouvoir gagner de l'argent en s'occupant des dommages de guerre. Sur place, il obtint des majorations, une priorité de paiement, etc. Il se procura des factures de complaisance. Et, ce qui n'était pas négligeable, il se familiarisa avec la législation nouvelle, si bien qu'il put, par la suite, en faisant pour d'autres noyonnés ce qu'il avait fait pour sa tante, réaliser des gains importants. Mais cette source ne tarda pas à se tarir. Il avait gardé le contact avec le professeur. Il en était venu à penser que cet homme était malgré tout plus intelligent que la plupart. Il admirait qu'après ce qui s'était passé, il ne lui en ait jamais voulu, et qu'alors qu'il eût pu triompher de son abaissement, il continuait à le traiter comme au temps où il avait donné les plus grandes promesses. Et puis, il fallait aussi songer au monde. Une telle relation, tenue cachée ou non, redonnait confiance à un homme dont on ne discernait plus très bien le rang. Que faire maintenant? Malgré son horreur pour tout ce qui touchait à la médecine, l'escadu, comme il y avait été obligé toute sa vie, recourir à elle. Il entra au service d'un certain docteur Choix, un spécialiste des voies urinaires de l'avenue Trudaine, mais d'une façon qui, en quelque sorte, lui convenait assez bien. Il ne s'agissait pas pour lui de soigner, le spécialiste se réservant cette noble tâche. Il s'agissait d'une besogne bien plus délicate. Le spécialiste avait remarqué que la plupart de ses clients prétendaient que la personne qui les avait contaminés n'était pas malade. Elle était au-dessus de tout soupçon. Comment eût-elle pu être malade, etc. Le docteur Chouard avait alors un sourire sceptique. À ce moment apparaissait Lesca en blouse blanche, comme si on le dérangeait de quelque travail de laboratoire. Le spécialiste répétait ce que venait de dire le client. Lesca prenait à son tour le même air sceptique. Le client se troublait. Quand il était légèrement atteint, il commençait à craindre d'autres dangers plus graves. « Si cette personne ne veut pas venir me voir, » disait le docteur Chouard, « et si cela peut vous rassurer, mon collaborateur pourrait tâcher de savoir ce qu'il en est. Il pourrait vous accompagner, parler à cette personne. » La tâche de Lesca commençait à ce moment. Il ôtait sa blouse blanche, remettait son veston, prenait son chapeau, puis s'en allait avec le client. Souvent, il devait attendre dans un café que ce dernier eût préparé sa visite. Une fois en présence de la personne présumée malade, son rôle consistait, en faisant intervenir toutes les ressources de la délicatesse et de la psychologie, à l'amener doucement à se rendre avenue Trudaine. S'il incitait ainsi, disait-il, c'était dans un but élevé. Presque toujours, heureusement, les personnes qui croyaient ne rien avoir n'avaient en effet rien. Mais les rares fois où elle s'était trompée justifiaient la peine qu'il se donnait. Il ne fallait pas risquer de ruiner sa santé, etc., quand il était si simple d'être fixé une fois pour toutes. Souvent, on mettait Lesca à la porte. Mais souvent, aussi, on se laissait influencer par son air bonhomme, inoffensif. Ayant augmenté ainsi d'une unité la clientèle du docteur Choix, il ne lui restait plus qu'à attendre le règlement des honoraires sur lesquels son dû lui était remis ponctuellement. Il faut dire que, 2 ou 3 mois avant de se livrer à cette étrange occupation, un phénomène curieux s'était produit dans les facultés intellectuelles de Maurice Lesca. Bien qu'il n'eût pas vieilli de façon particulière, il avait un peu grossi, il est vrai, qu'il ne but pas d'alcool, qu'il n'eut aucun vice, bien qu'il ne lui fût arrivé aucun malheur, il ne voulait plus penser. Son visage n'avait pas changé. Ce n'était que lorsqu'on lui posait une question trop précise qu'on discernait cette bizarre volonté. Le milieu de son regard se mettait à trembler comme un instrument de précision sur un meuble à côté duquel on marcherait. Lesca ne répondait pas. Il ne savait rien. Il ne voulait rien savoir. Pourquoi lui posait-on des questions? Ne pouvait-on pas le laisser tranquille? Un jour, Lescar reçut une lettre de sa sœur. Son mari était mort subitement. Il n'avait pas été malade pourtant. Le matin, il s'était rendu à son bureau comme d'habitude. À midi, la boulangère était montée pour transmettre une communication téléphonique de la maison Crespin. Le mari d'Émilie ne se sentait pas très bien. Il ne rentrerait pas déjeuner. À 3 heures, nouvelle communication. Il demandait à sa femme de venir le chercher. Elle courut à son appel. Elle trouva son mari assis sur une chaise, entouré de 4 ou 5 de ses collègues. Il sourit en la voyant. Le travail continuait dans les bureaux. Elle fut néanmoins frappée par son aspect. Des lignes d'ombre faisaient saillir ses traits. Il avait déboutonné son col. Quelque chose de plus jeune émanait de son cou libéré. Aux questions que tout le monde lui posait, il était incapable de répondre. Il ne savait pas ce qu'il avait. Quand on lui demandait où il souffrait, il levait la main en signe d'ignorance. Émilie le conduisit à la maison. Il se coucha aussitôt en arrivant. Il n'aurait peut-être pas dû, car à peine étendu et couvert, il eut une syncope, suivie bientôt d'une autre. À minuit, il était mort. Émilie s'était révoltée contre la stupidité de ce malheur. Elle essaya d'avoir des éclaircissements. Elle apprit avec stupeur, de la bouche même du médecin qui, quelques heures auparavant, lui avait dit que ce n'était rien, que son mari était gravement malade depuis des années. C'était incroyable. Jamais il ne s'était plaint, jamais il n'avait même songé à consulter un médecin. Elle se souvenait encore de sa crainte, chaque fois qu'il avait dû passer un conseil de révision, qu'on ne jugeât sa myopie insuffisante pour le maintenir réformé. Elle se souvint qu'il s'était plaint que la maison Crespin lui avait retenu de l'argent en prévision d'une maladie. Elle se souvint également des nombreuses circonstances où il avait eu besoin d'un prétexte pour ne pas aller au bureau, sans qu'il eût jamais songé à alléguer l'état de sa santé. Lescar ne répondit pas à la longue lettre de sa sœur. Mais quelques semaines plus tard, il lui envoya un mandat. Ce fut le premier d'une longue série. Elle le remercia. Elle le pria de venir la voir ou de lui dire, s'il ne pouvait pas se déranger, où elle pourrait le rencontrer. Il ne répondit pas davantage. Quelque temps après, il lui envoya un autre mandat. Elle lui écrivit aussitôt, lui donnant de nouveaux détails sur sa vie, sur ce qu'elle projetait, sur ce qu'elle attendait et espérait de son fils. Elle s'imaginait que les mandats étaient la preuve du grand intérêt que lui portait son frère. Il regrettait sans doute de ne pas s'être toujours conduit avec elle comme il aurait dû. En ne lui cachant rien de sa vie, elle lui faisait comprendre que tout cela était oublié et elle le mettait à l'aise. Il ne répondit toujours pas, mais il envoya encore un mandat. Elle lui écrivit, sans le remercier cette fois, pour lui dire comment elle employait cet argent. On sentait qu'elle ne voulait pas laisser paraître ses sentiments de reconnaissance. Elle ne comprenait pas très bien ce que cachait cette façon mystérieuse de lui venir en aide. Elle était intriguée. Certaines paroles de son mari lui revenaient à l'esprit. De nouveau, elle reçut un mandat. Lescar n'avait pas trouvé un mot à écrire sur la place pourtant si petite réservée à la correspondance. Elle répondit encore une fois, la dernière. Lescar n'en continua pas moins à lui envoyer de l'argent. Il ne pensait jamais à elle. Tout à coup, en passant devant un bureau de poste, il entrait, faisait la queue au guichet des mandats, remplissait une formule, donnait l'argent, mettait le reçu dans son portefeuille et, quand il sortait, il éprouvait un immense bien-être. Celui-ci durait 1 semaine, 15 jours, jusqu'à ce que, de nouveau, pour le retrouver, Lescar entra de nouveau dans un bureau de poste. Tant qu'il demeura chez le docteur Choix, il envoya ainsi de l'argent. Mais 9 mois plus tard, il le quitta. Il n'eut plus alors les moyens d'envoyer des mandats. Les premiers temps, il en souffrit comme d'une privation physique. Puis il s'y accoutuma. Émilie lui envoya à ce moment plusieurs lettres. Quand il reconnaissait l'écriture de sa sœur, il ne les ouvrait pas et les mettait dans un tiroir. Ce ne fut que longtemps plus tard, au moment où de nouvelles perspectives s'ouvrirent devant lui et qu'il envisagea d'envoyer de nouveau de l'argent à sa sœur, qu'il les ouvrit. Émilie s'étonnait de sa façon d'agir. elle le priait de lui faire parvenir par retour de courrier l'argent sur lequel elle comptait. S'il ne voulait plus lui en envoyer, il aurait pu au moins la prévenir. Elle lui disait qu'il était fier, orgueilleux, qu'il s'était moqué d'elle, qu'au fond, il n'avait aucune bonté, qu'il avait voulu l'humilier et que, son but atteint, il avait montré sa vraie nature. Lescat ne laissa paraître aucune amertume. Il déchira les lettres. Il avait d'autres préoccupations. Les nouvelles perspectives étaient des plus intéressantes. Il avait revu son ancien associé. Il s'agissait de fonder, non pas une clinique, mais une maison de santé aux environs de Paris. Les capitaux étaient déjà réunis. Lescat pouvait être utile grâce à ses relations avec le professeur Spex. On ne lui demandait rien d'autre que d'obtenir du professeur qu'il accepta de présider le comité de direction. Lescat fut présenté à plusieurs personnes. Il ne remarqua pas que, pour son modeste rôle, on lui en montrait beaucoup trop. « Et moi ?» demanda Lescat en apprenant que tous les médecins attachés à l'établissement devaient être actionnaires. « C'est à vous de savoir vous arranger avec le professeur, » répondit son ami. « Puisque vous lui procurez une si belle situation, demandez-lui qu'en échange, il vous permette d'être des nôtres. » Il donna quelques conseils à Lescat. Il fallait surtout ne pas avoir l'air de demander un service au professeur, il fallait au contraire avoir l'air de lui en rendre un. Lescat ne broncha pas. Il se rendit chez son ancien beau-père. Mais ce dernier, quelque insistance qui mit Lescat, refusa, prétextant qu'il était trop vieux, il allait avoir 78 ans. Lescat crut que tout était perdu lorsque le professeur Peix, de cet air faussement indifférent des gens dont l'intérêt est toujours en jeu, bien qu'apparemment il ne le soit plus, lui dit « Et mon gendre, le professeur Paluel, est-ce qu'il ne ferait pas aussi bien que moi à la tête de votre comité ?» Les commanditaires feignirent d'être déçus, puis ils acceptèrent. C'est ainsi que Lescat fut amené à faire la connaissance de l'homme qui avait épousé sa femme. L'entrevue eut lieu au domicile du professeur Peix. À aucun moment, Lescat ne montra la plus petite gêne. Alors que, malgré l'importance de la conversation, le professeur Paluel observait Lescat à la dérobée chaque fois que l'occasion le permettait, ce dernier ne paraissait même pas savoir en présence de qui il se trouvait. L'affaire fut conclue. Elle reçut même un commencement d'exécution. Puis, elle craqua. La justice fut saisie. Quelques semaines après, le professeur Paluel eut la surprise d'apprendre qu'une partie de la somme qu'il avait versée pour le compte de Lescat, une très petite partie, il est vrai, avait été rendue par le syndic à ce dernier. Lescat n'en avait jamais parlé. Le professeur Paluel raconta l'histoire à son beau-père. Ils décidèrent d'attendre les explications de Lescat. Elles furent si confuses, si bizarres, qu'en l'espace de quelques minutes, Paluel changea complètement d'attitude vis-à-vis de Lescat. Il se mit à rire. Lescat n'existait plus à ses yeux. C'était un original, un malade, un inquiet, un homme qui ne savait pas ce qu'il faisait. « Vous ne vouliez pas me croire, je vous l'avais toujours dit », observa le professeur Peix dès que Lescat fut sorti. Peu de temps après cette singulière histoire, Lescat tomba gravement malade. Depuis un mois déjà, il avait remarqué que, sitôt sa toilette terminée, comme si le simple contact de l'eau avait suffi, un mal de tête intolérable le prenait. Il n'osa plus se laver. Pendant 2 ou 3 jours, il alla mieux. Puis ce fut le simple fait de prendre son petit déjeuner qui lui causa ces maux de tête affreux. Il s'en priva. Pour éviter ses douleurs, il aurait fallu, selon lui, des conditions de vie idéales. Aucun bruit, aucun effort, aucune brusquerie et surtout aucune émotion. Il essaya alors de trouver ses conditions idéales, mais comme c'était impossible, il se mettait à chaque instant en colère. On voulait le tuer, le monde était ligué contre lui, etc. Puis son état s'aggrava. Un matin, il se réveilla tremblant de peur. Il venait de lui apparaître que même des conditions idéales de vie ne lui suffisaient plus. Il venait de se réveiller. Il n'avait entendu aucun bruit, ni éprouvé aucune émotion, et pourtant, il sentait dans sa tête un mal atroce. Rien n'était arrivé et il avait déjà mal. Puis à ces maux de tête s'ajouta bientôt un état fébrile constant. Quelquefois, il rentrait à 3 heures de l'après-midi pour se coucher. Le seul fait d'ôter son chapeau lui donnait des frissons. Cela dura un mois et brusquement, un soir, il se mit à délirer. Il avait 40 de fièvre. Il appela. La femme de chambre de l'hôtel alla prévenir le professeur Pex. Ce dernier était couché. Il téléphona à son gendre qui accourut aussitôt et transporta lui-même dans sa propre voiture l'ESCA à l'hôpital Laennec. Pendant 6 semaines, il fut impossible de faire baisser la température. Le cœur, déjà faible, n'était parfois plus perceptible à l'auscultation. Une issue fatale semblait imminente lorsque brusquement, un matin, la fièvre tomba. L'ESCA était sauvé. Il partit en convalescence pendant quelques mois dans une sorte d'hôtel médical du Midi dont le professeur Paluel connaissait le directeur. Ce fut en rentrant à Paris qu'il s'installa rue de Rivoli. Devant la gravité de son état, sa famille de Bordeaux lui avait fait parvenir une petite somme d'argent. Grâce à la bonté du professeur Paluel, il n'avait pas eu besoin de la dépenser. Alors commença pour l'ESCA une existence morne. La maladie l'avait transformé. Il avait renoncé à toute activité. Le peu d'argent que sa famille lui avait donné s'envola rapidement. Il avait heureusement la sympathie, d'ailleurs assez inexplicable, du professeur Pex et de Paluel. Quand il allait leur demander un petit service, il était rare qu'ils le lui refusassent. Il vivotait ainsi depuis 5 ans, lorsqu'un matin on frappa à sa porte. C'était Émilie, mais combien changée elle aussi. Son air de petite bourgeoise avait disparu. Quelque chose de rigide émanait d'elle. Elle avait une énorme valise d'osier. Elle avait monté les 4 étages avec cette valise sans savoir si son frère était là ni s'il pourrait la garder. L'ESCA l'aida à entrer la valise. Elle s'assit aussitôt. Quelques minutes après, elle leva les yeux, vit son frère. Il était changé. Elle ne s'en aperçut pas. Ce fut ainsi qu'elle s'installa chez lui. Jamais elle ne lui donna de raison. Il devina cependant par la suite que quelque chose s'était passé entre elle et son fils.